One, two, three, ho!
Enregistreur.
Check.
Passe Vélib.
Check.
Casque.
Check.
Masque anti-pollution.
Check.
Gilet jaune.
Ah non, alors là, je vais prendre plutôt les gilets orange.
Bon, bah, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. On est prêt pour aller à Paris. Salut les copains, vous êtes à l'écoute de Pause Vélo et aujourd'hui c'est l'épisode 52. Alors on est en léger différé du 35e Festival International du Voyage à Vélo. Je me suis pas trompé ?
C'est bien ça.
Ok, donc vous avez reconnu Florian autour
voilà,
de...
Voilà, je reviens. Après.
Comment ça va Florian ?
Ça va très bien maintenant.
Heureux, épanoui ?
Oui, très heureux, très
et
épanoui.
Et toujours Lilou à la technique.
Salut tout le monde.
Hello Lilou, heureux, épanoui aussi.
À fond, en plus on a la grande joie d'avoir Allo la planète qui nous prête son matériel pour faire cet enregistrement en direct du festival.
Léger
donc
différé,
on les remercie.
Léger différé, oui. S'il te plaît.
Il faut dire qu'on est à Paris, hein, on l'a peut-être pas encore précisé.
Exactement, à Vincennes.
Vincennes. À Vincennes.
Et on a avec nous la coordinatrice du festival, Sylvie. Salut Sylvie.
Bonjour.
Donc
bonjour
tu nous dis que tu es l'une des plus anciennes adhérentes de Cyclo Camping International.
Voilà, mais je suis pas la seule, mais effectivement j'ai vécu un petit peu la naissance de l'association. Et alors puisqu'on est au festival, c'est le moment de dire que le festival est né assez vite en fait, parce qu'il y avait une ambiance où l'aventure commençait à être un peu à la mode dans les années 80.
Oui.
Et puis ça n'a fait que continuer. Et puis alors le vélo dans l'aventure, dans le voyage, c'est complètement imposé quoi.
Ah bah tout à fait.
Voilà.
Et donc il est né en quelle année le festival ?
Ben en 85.
Et ben voilà, et là je suis très heureux de vous annoncer que c'est mon année de naissance aussi.
c'est dingue.
J'ai
c'est
l'âge dingue. Du festival, je
bon,
le fais pas.
Bah t'es peut-être venu dans ton berceau, mais t'as oublié quoi.
Je pense
ça
pas.
Doit être ça.
Je pense pas.
Donc 35e épisode du festival quand même.
Voilà.
Ça devait être très marginal à l'époque en 85, le voyage à vélo.
C'était assez marginal, mais il y en avait, et il y en avait répartis un peu partout. Donc justement, l'idée de départ par le fondateur, c'était de réunir des gens qui s'intéressaient à ça, où qu'ils soient, parce qu'ils n'étaient pas nombreux, donc il fallait aller en chercher à droite, à gauche en France. Et les gens se rencontraient un petit peu quand même avec les bourses, par exemple. Il y avait des bourses, motobécane, tout ça. Enfin, c'est l'histoire. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Mais donc, les cyclos se rencontraient là.
D'accord.
Et un jour, il y en a deux qui ont dit « Bon, ce serait bien de raconter quand même ce qu'on fait, etc. » Alors, ils ont voulu créer une revue. Ils ont créé une feuille de chou quelconque. Et puis, ils se sont rendus compte que c'était mieux de créer une association en même temps qu'on créait une revue parce que ça donnait des droits pour le routage. Enfin,
d'accord.
Des
et donc, l'association, c'est Cyclo Camping International ?
C'est Cyclo Camping International.
Qui a été créé après le festival ?
Non, avant. 82. Mais
oui, d'accord.
Pas tellement avant, finalement.
Ok. Mmh. Et cette association, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle promeut ?
Alors, cette association, elle réunit les gens qui s'intéressent et qui pratiquent l'itinérance à vélo. On va dire ça globalement, parce que c'est vrai que l'itinérance d'une semaine ou l'itinérance d'un an ont tout un point commun, c'est d'être s'inscrire dans une idée de voyage lent,
oui.
Dans une idée finalement de vélo avec sa coche. C'est vraiment le symbole principal, tu vois.
D'accord, voilà. Oui.
Vous avez édité un livre en 2017, Le manuel du voyage à vélo, le guide indispensable pour partir à vélo. Ça, c'est le sous-titre.
Voilà.
Ouais.
Voilà. Alors ça, en fait, c'est pareil, c'est un truc qu'on a fait, c'est au moins la 5e ou 6e édition, et on l'a toujours fait avec la même méthode, c'est-à-dire un travail collectif, de manière à profiter des astuces et des idées gens qui ont pratiqué.
C'est partagé,
voilà.
D'accord.
Voilà, c'est un peu
moi,
ça l'idée.
J'aimerais savoir... À quoi ça ressemblait, il y a 35 ans, un récit de voyage à vélo ? Parce qu'aujourd'hui, on a des caméras, tu vois, on a des drones pour faire de merveilleuses
vues de
nos voyages. Mais il y a 35 ans, ça ressemblait à quoi, un récit ?
Alors, un récit, c'était des diaporamas, hein, c'était des diapos.
Ah. Mais... Alors, pour les enfants qui n'ont pas connu ça,
la photo
demandez à
n'était
vos parents.
Pas numérique. Voilà, c'est ça.
Ah ouais, d'accord.
Maintenant, beaucoup de gens, il y en a qui ont numérisé leurs diapos. Donc, quand ils veulent faire un truc historique, eh ben, ils ressortent leurs diapos comme ça.
Et donc, le voyageur, il était sur scène et puis il racontait son voyage ou c'était enregistré aussi ?
Alors,
il y avait cette possibilité-là ?
Nous, personnellement, dans notre festival, très rapidement, on a écarté la conférence. Parce que alors on mesure absolument pas le temps, c'est épouvantable et on se retrouve avec une heure de retard sur le programme et ça non, c'est pas possible.
Le Cyclo Camping International, hormis le temps du festival, le reste de l'année vous aidez les voyageurs à vélo, non ? Vous êtes
Tout à fait. Alors d'abord, il y a Paris et puis il y a d'autres régions qui sont assez dynamiques, surtout à Nantes, on peut dire.
D'accord.
C'est pareil, c'est des endroits où il y a toujours eu pas mal de... Le vélo, c'est quand même bien développé, y compris chez les voyageurs. Bordeaux aussi, ils font des trucs de temps en temps. Alors bon, le festival, c'est vrai que c'est quand même une des activités importantes, mais bon, le manuel, tu vois, on a mis... Bon, ça, c'est un travail pratiquement d'un an collectif, donc c'est... Ça dynamise les gens. Et le reste de l'année, quelque chose comme notre forum est vraiment un lieu de conseil essentiel. Donc c'est un forum ouvert aux adhérents.
Comment ça s'organise ? C'est un forum sur Internet ou c'est sur un lieu physique ?
On accède au forum à partir du site, oui, bien sûr.
D'accord.
Alors bon, les activités évoluent un peu. Par exemple, la bourse, elle n'a que 2 ans. On donne une bourse de 1 000 euros. Donc le choix a été fait d'avoir, au lieu d'éparpiller, de donner une somme quand même assez significative.
Qui peut candidater à ces bourses, à cette bourse ?
Alors, je ne connais pas les conditions par cœur, je dois dire. Je sais qu'il faut partir à une certaine période, avant le mois de mars ou quelque chose comme ça, candidater avant. Bon, sur le site, on est orienté assez rapidement.
On renverra vers le site.
C'est important de savoir.
Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Je vous propose qu'on aille écouter une nouvelle chronique de Séraphin, administrateur de la FUB.
C'est parti.
Bonjour, bonjour.
Maintenant mon vélo,
et ben alors. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première chronique Parlons Vélo, le lobbying citoyen. Et quoi de mieux pour commencer cette série que de parler du baromètre Parlons Vélo des villes cyclables. Calqué sur le Fahrrad Klimatest de son homologue allemand, la DFC, la Fédération des usagers de la bicyclette, ou FUB pour les intimes, a lancé en 2017 la première édition d'un baromètre élaboré par les cyclistes pour évaluer la cyclabilité de leur commune. Avec 113 000 répondants et plus de 300 communes classées, ce baromètre a contribué à faire du vélo un sujet sérieux des politiques publiques. Plus de condescendance, ce sont désormais des dizaines de milliers de Françaises et de Français qui réclament un réseau cyclable continu et séparé de la circulation automobile. La dynamique qui s'ensuit permet d'interpeller les candidats aux élections présidentielles et législatives. La suite, vous connaissez, le plan vélo national. En 2019, on décide donc de remettre ça pour une deuxième édition, qui a pour but d'amener le vélo au cœur des débats pour les municipales. Et grâce à une grosse mobilisation des associations, de cyclistes motivés et de médias, le record est battu avec 184 000 réponses, ce qui fait du baromètre la plus grande enquête au monde sur le vélo. Surtout, 763 communes ont atteint le seuil des 50 réponses, ce qui leur permettra d'obtenir une note, mais ça, on en parlera dans une prochaine émission. Aujourd'hui, presque aucun département n'est oublié. Et pour de nombreuses grandes villes, la ville-centre n'est pas la seule à avoir récolté des réponses, ce qui est un grand pas vers la prise en compte des cyclistes à l'échelle de l'agglomération et pour enfin se pencher sur les coupures urbaines et le périurbain. Le baromètre, c'est véritablement l'occasion de questionner les politiques locales sur l'ensemble des aspects du système vélo. Confort des pistes cyclables, respect des cyclistes, sécurité du stationnement, mesures contre le vol, service aux cyclistes. Pour le moment, l'édition 2019 livre déjà quelques enseignements aux associations et aux élus locaux. Un outil cartographique a permis de relever près de 400 000 points noirs et tronçons à aménager. Vous pouvez les consulter en ligne sur le site carto.parlons-vélo.fr. Vous pouvez également accéder aux réponses libres des participants et bientôt à l'ordre des 26 questions, de la mieux notée à la moins bien notée, pour chacune des 763 villes sur le site municipal2020.parlons-vélo.fr, dont nous parlerons aussi très rapidement. Les résultats définitifs, la note et surtout le podium national seront présentés lors du congrès de la FUB qui se tiendra les 6 et 7 février à Bordeaux. On en parle la semaine prochaine.
Merci Séraphin pour ces infos.
Alors maintenant les copains, je vous propose d'accueillir avec nous Maya.
Bonjour.
Bonjour Maya. Toi, tu as fait un formidable voyage. J'ai vu ton film ce matin. C'était juste impressionnant. Alors, c'était un voyage qui a duré combien de temps ?
Un an, un peu moins.
Un an. Donc,
réellement, mais...
quel âge avais-tu au moment du voyage ?
J'avais 9 ans en partant et 10 ans en revenant.
Vous vous rendez compte ? Non, mais faire un voyage d'un an à vélo avec des enfants de 9 ans.
Oui.
C'est possible. Moi, j'ai une question qui me turlupine. Comment on réagit quand on a 9 ans et que nos parents nous disent « on part pour un an à vélo » ?
Alors, ma première réaction, c'était de savoir si c'était une blague. Parce que au début, quand on annonce ça et qu'on ne s'y attend pas, j'étais pas sûre que c'était vrai. Et puis après, j'ai pensé à mes amis donc en me disant « ouais, mais quitter tout ça pendant un an, c'est un peu dur ». Et puis petit à petit, plus on y pense et plus ça attire. Et c'est au bout d'un moment, on est en fait plus attiré que retenu à la France. Et du coup,
Et tu pars.
Ouais.
Ils vous ont annoncé ça combien de temps à l'avance ? Tu
Alors,
te souviens ?
Je crois que c'était vraiment pas beaucoup de temps. Genre,
3 jours avant ?
Non, 2 mois, mais quelque chose comme ça. On a quand même fait pas mal au dernier moment.
D'accord. Et donc, vous êtes parti de où pour aller où ?
On est parti de Buenos Aires pour aller à Quito.
D'accord, donc Amérique du Sud.
Ouais,
principalement, Amérique du Sud, pendant un an. Et vous avez fait pas mal de woofing. Mmh, donc on va expliquer ce que c'est le woofing.
Oui, c'est aller travailler dans une ferme, c'est ça? Tu peux nous en dire plus?
Pas forcément une ferme. Maintenant, ça s'est beaucoup plus élargi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de milieux différents. On est accueilli chez l'habitant contre...
Du travail.
Fait.
C'est ça,
ouais.
Tu travailles pour lui et puis il t'accueille et il te loge.
Il te loge et il te nourrit. Non.
Ok, ouais, d'accord. C'est un bon concept, mais pendant un an quand même. Alors, quand on a 9 ans et qu'on fait ça, tu vois, comment on vit ça à 9 ans?
Au début, déjà, on se demandait si ça allait aller le woofing en famille parce que, quand même, pour des enfants, c'est pas forcément facile d'aider.
C'est vrai.
Et au final, ils nous ont trouvé plein de choses marrantes à faire et je me suis vraiment plu dans ça. J'ai trouvé ça super intéressant et enrichissant. Bon, parfois, on était avec mon frère, on faisait la vaisselle parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Mais
Alors, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, donc ils sont partis en famille, c'est les parents et 3 enfants. Oui. À savoir, donc, 2 tandems et un... Voilà, ton frère qui était en vélo seul, hein, c'est ça? Voilà. Et qui une grande sœur encore.
Oui. Ils échangeaient avec ma sœur parfois entre le tandem et le vélo simple.
Donc, un an sans aller à l'école. Oui. C'est... Bon, non, vous avez triché. Non, vous avez quand même suivi le programme scolaire.
Ouais.
Vous faisiez une heure d'école, une heure par jour d'apprentissage. Est-ce que c'est suffisant?
Alors, pour moi, oui.
Bien sûr que c'est suffisant. Qu'est-ce que tu crois?
Alors, on aurait pu faire le CNED, qui est quelque chose de beaucoup plus réglementaire, on va dire, et complet, où c'est 4 heures par jour, je crois. Mais il faut envoyer des choses à la France, c'est beaucoup plus long comme processus.
Et il faut attester de chaque niveau passé.
Je crois, il y a beaucoup de manip à faire. Et nous, on s'est dit, on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie de le faire. Et du coup, on a pris chacun un gros livre où on avait une page de leçon, une page d'exercice chaque jour. Et on se lésait. Et bon, parfois, il y a eu des petits moments de tension avec les parents parce que... Ma mère sait pas toujours bien faire et encore ça va, mais mon père est pas très patient. Donc, parfois on s'est un peu débrouillé tout seul, mais je pense qu'une heure suffit parce qu'on est rentré et directement on s'est recalé. On était vraiment dans la moyenne. Enfin, moi, je me suis pas du tout sentie en décalage quand je suis revenue.
Bon, du retour, d'accord.
Alors, question apprentissage, est-ce que tu as appris la géographie, l'histoire, des civilisations, des sociétés traversées?
Ça m'a beaucoup intéressée. J'ai appris de base la géographie, c'est vraiment pas mon domaine et c'est pas la chose que je retiens le plus quand je fais un trajet ou ce genre de choses. Mais là, je regardais les cartes avec mon père, je regardais la distance de chaque ville. Bon, après peut-être que j'ai un peu perdu là vu que je suis pas dedans, mais oui, je pense que ça m'a aidé. Après, niveau histoire, on a par exemple un exemple, Machu Picchu, on est allé, donc on a quand même beaucoup creusé l'histoire des Incas et ça m'a énormément intéressé d'aller sur les lieux, de découvrir l'histoire du pays. Et on voyait même des personnes qui parlaient encore le Quechua, c'est une ancienne langue qui était encore un peu apprise mais pas énormément. Et c'est quand même intéressant.
Donc là, tu parles de la langue. Au moment du départ, tu parlais pas espagnol?
Non, je parlais pas espagnol. Et alors, au début, ça a été honnêtement compliqué. J'écoutais plus que je parlais, donc j'écoutais les personnes. Donc déjà, on est arrivé en Argentine et on est arrivé dans une famille où le père parlait très, très vite. Et j'avais l'impression qu'il parlait chinois. Et je le regardais et j'étais là, est-ce que je comprendrai un jour? Et ce qui a été drôle, c'est qu'à un autre moment du voyage, on est retourné, on les a revus, en fait. Oui. Et j'ai pu lui reparler normalement parce que j'avais appris à ce moment-là et ça a été très agréable. Et j'ai pu, du coup, constater ma progression. Au début du voyage, je parlais peu et parfois, c'était un peu dur parce que j'avais l'impression... Enfin, les gens, ils pensaient que je comprenais pas ce qu'ils disaient parce que j'arrivais pas à leur répondre.
Oui.
Mais je comprenais, mais j'arrivais juste pas à parler.
Ouais, et puis t'osais pas.
Ouais. Et puis au fil du temps, quand on commence à parler, c'est super agréable. Et on a vraiment envie de parler de plus en plus. Et du coup, il y a un moment du voyage où j'avais juste envie de rencontrer des gens pour pouvoir leur montrer que je parlais espagnol.
Et est-ce qu'il y a eu un moment difficile où tu t'es dit « j'en ai marre, je veux rentrer en France » ?
Je pense que je ne me suis jamais réellement dit « je veux rentrer en France ». Mais il y a des moments où je me suis dit « non mais là, je vais m'arrêter.
Stop, mais j'en peux plus.
C'était quand même très passager, je crois, ce genre de moment.
Bon, après, t'es en famille, c'est plus facile aussi. Quoi. T'es pas toute seule, livrée à toi-même. Mais, mais à 9 ans, tu vois, t'as pas d'attache pendant un an, quoi. Ou t'as pas ton lit, t'as pas tes amis.
Après, j'ai jamais trop été attachée forcément au matériel. Donc ça, c'est pas une chose qui m'a forcément gênée. C'est vrai qu'au début, on se rend pas trop compte quand on part en voyage, qu'en fait on part réellement, et quand on arrive, on se dit « Ah, mais en fait, on est dans un autre pays, et là, on va vraiment partir, on fait du vélo, quoi. »
C'est pas une blague.
Ouais. Mais il y a beaucoup de moments très agréables où on se rend compte qu'on est en voyage et qu'on est content d'être là, en fait.
D'accord.
Et il y a aussi des moments où on se dit « Mais pourquoi on s'est embarqué là-dedans ?»
Avant de faire ce grand voyage, vous aviez fait déjà, avec ta famille, des plus petits voyages en France, en Europe, à vélo?
Alors oui, à vélo. On a déjà fait certains voyages, mais c'était beaucoup plus petit, d'une semaine... En Ardèche, par exemple, pour aller rejoindre ma mère qui faisait du théâtre là-bas ou ce genre de choses, mais jamais réellement de grands projets. On était quand même plutôt sportifs, enfin dans la moyenne, quoi, mais on n'était pas extrémistes et on faisait pas du vélo en compétition ni rien. Et on s'est pas forcément préparé en faisant plus de vélo avant le voyage, mais on en faisait quand même un peu.
Et maintenant que tu as vécu cette expérience, est-ce que tu aurais envie de repartir à vélo?
Alors,
ou est-ce que tu te sens capable aussi
à vélo?
On pensait quand tu seras adulte indépendante, est-ce que tu feras la même chose? Tu partiras à vélo ou est-ce tu emmèneras tes enfants découvrir, faire cette expérience-là?
Je pense que c'est à peu près sûr que je revoyagerai une fois dans ma vie. Ça, c'est...
À vélo?
Alors, à vélo, je pense vraiment parce que c'est un moyen qui vraiment est super ouvert à la rencontre et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important dans un voyage. Et donc, ça me plaît beaucoup. Je suis quand même vite décourageable. Donc, je ne sais pas si j'aurai le courage. Bon, je pense que je ne ferai pas de voyage toute seule.
D'accord.
Mais en couple, oui. Et en famille, je pense, après, je pense pas que je m'embarquerai en famille quand mes enfants ils sont tout petits parce que, bon, après, je sais pas encore, hein, mais ça me paraît quand même compliqué.
Ouais, il faut être motivé. Hein.
Il y en a qui le font, mais je pense que ça demande pas mal d'organisation.
De tirer une carriole ou ce genre de choses, je pense que c'est un peu compliqué. Mais après, j'ai vraiment envie de transmettre ce goût du voyage à mes enfants. Je pense que c'est quelque chose... qui me paraît important parce que je suis contente que mes parents l'aient fait. Quoi.
Merci beaucoup Maya d'avoir partagé cette expérience avec nous. Cette vidéo, il n'y a pas possibilité de la voir sur internet, non, elle n'est pas diffusée, hein, c'est ça?
Non.
Malheureusement. Bon, c'est dommage parce que c'est vraiment une vidéo formidable, un voyage superbe.
Merci.
Vous avez un blog peut-être?
Oui, on a un blog. Ah. Alors, je suis pas sûre de connaître l'adresse par cœur. Je crois que ça s'appelle Ernest Astrimbal.
On va la noter et puis je la mettrai sur le site internet.
Voilà, on partagera tout ça. Ouais.
Et alors, on est toujours en léger différé du festival du voyage à vélo à Vincennes. Et on a maintenant avec nous Charlie.
Oui.
Salut Charlie.
Salut.
Quel âge as-tu Charlie?
Alors j'ai 24 ans.
24 ans, et ton voyage tu l'as fait quand?
Je l'ai fait il y a 3 ans, je suis parti en septembre 2017 avec un ami.
De où à où?
On est parti de Labiole, donc c'est en Savoie, c'est près de Chambéry. Et on a rejoint le Pérou en 9 mois et demi en passant par le Sénégal. Donc on a fait France-Sénégal, Sénégal jusqu'en Amérique du Sud en bateau stop et ensuite... de la Colombie jusqu'au Pérou en vélo.
Ouais. Il y avait un projet d'aller de cinéma ambulant, c'est ça?
Ouais. Alors en fait, tout a commencé dans un autre festival. Moi, j'étais là en tant que spectateur, donc j'avais payé ma place et j'ai vu un film de deux filles qui étaient parties, qui avaient fait un voyage à peu près similaire avec un cinéma ambulant et j'avais trouvé ça génial. Donc quand je suis sorti, je me suis dit que je voulais faire pareil. Et donc un an et demi après, je faisais pareil, je partais comme elle. Et donc on avait un cinéma ambulant parce qu'elles avaient fait pareil, donc je me suis renseigné auprès d'elles comment elles avaient fait ça.
Donc actionné par le vélo.
Donc voilà, c'est
alimenté par le vélo.
Ah
donc,
ouais.
Il faut préciser. Ouais.
Qu'est-ce que vous proposiez comme film à regarder?
C'est une bonne question parce qu'on savait pas non plus avant de partir quel film on allait proposer, donc on avait une banque de films assez large avec des courts métrages, des films muets, des longs métrages, des films engagés, des documentaires.
En quelle langue?
Toutes les langues, dans les pays qu'on allait traverser. On a essayé un peu de tout et on s'est rendu compte que les films, ça marchait pas forcément, les gens n'étaient pas plus intéressés que ça. Donc en fait, on s'est plutôt orienté sur les courts-métrages. Donc on diffusait des courts-métrages et ceux qui marchaient le mieux, c'était des courts-métrages, même d'animation, où les gens pouvaient venir au milieu d'une séance et puis reprendre un nouveau court-métrage en route, ça c'était super. Et puis on arrêtait aussi quand on voulait.
Et c'est donc aux enfants ou aux adultes ou...
Alors il y avait les deux.
Et vous avez fait aussi votre cinéma, vous vous êtes mis en scène puisque vous en avez tiré un film de votre voyage.
Bah ouais, d'où le nom d'ailleurs, ça s'appelle Ça tourne en route parce que c'était en lien, voilà, donc avec Ça tourne en route avec le vélo, le fait de rouler en route, le fait de filmer, le fait de diffuser des films, d'en faire un film ensuite.
D'accord. Du film, c'est pas trop dur de se mettre en scène en vélo, en voyage, c'est pas trop galère.
Il faut s'y tenir, il faut filmer régulièrement. Il faut des fois les moments difficiles surtout où on n'a pas forcément envie de filmer, c'est bien si quelqu'un prend la caméra, film, dit deux trois petits mots, c'est toujours sympa. Et puis après ça rend vraiment bien en film, c'est souvent c'est marrant d'ailleurs.
Arnaud a été conquis. Hein.
Ah, moi j'ai adoré le film, c'est une merveille, c'est un bijou. Et justement tu parles de moments difficiles, est-ce que dans tes 9 mois et demi de trajet, enfin vous étiez deux donc, il y a un moment où vous aviez envie de faire demi-tour?
Alors faire demi-tour non.
Arrêter?
Le seul...
Rester?
Non, on aurait pu prendre un camion ou mettre les vélos ou dans un train, je sais pas, voilà. Enfin, faire une rupture sur une portion pour pas la faire parce que c'est trop difficile. On l'a pas fait. Il y a eu donc les moments les plus difficiles, ça a été peut-être les portions dans le Sahara où on avait beaucoup de vent, beaucoup de sable et donc on avançait pas très vite à certains moments. Donc là, on a hésité. Finalement, la météo s'est améliorée, donc on a pu repartir. Mais non, on n'a jamais voulu faire demi-tour. On n'a jamais eu de gros soucis. Ni de santé, ni matériel, ni financier, où on s'est dit là, il faudrait qu'on.
Peut-être un gros souci quand même, c'est vous avez fait du bateau stop.
Ouais.
Alors comment en fait, passé
donc on arrivait dans les ports et on faisait tous les bateaux un par un.
Waouh.
Et on se présentait, on disait où est-ce qu'on voulait aller, on disait qu'on avait fait un peu de voile ou pas, et puis voilà, on commençait à tchatcher un petit peu avec les gens et on se faisait très vite. Quelques copains, des gens qui n'allaient pas forcément à l'endroit où on voulait, mais voilà, on discutait avec eux, ils nous disaient, oh, tiens, on connaît un tel, vous pouvez aller le voir, et puis ensuite même on s'est fait héberger dans les ports par des gens qui n'allaient pas du tout là où on voulait, mais qui nous ont dit, si vous ne savez pas où dormir, venez dans notre bateau pendant 2 semaines, ou autant de temps que vous voulez, tant qu'on est là, et le temps que vous trouviez un bateau. Et donc voilà, donc on va vers les bateaux, on demande aux gens où est-ce qu'ils vont, si ça les dérange de nous prendre ou pas, et puis au bout d'un moment, quelqu'un dit oui.
Et ça vous a pris combien de temps à trouver un bateau qui vous emmène où vous vouliez?
À chaque fois, on a pris 4 bateaux au final, mm-hmm. Donc ça fait 4 recherches.
Oui.
Et donc à chaque fois, c'était à peu près 2 semaines.
D'accord.
Deux semaines entre le moment où on arrive et qu'on commence à chercher et le moment où on repart.
Oui.
Mais donc au bout d'une semaine, on avait déjà trouvé en fait.
Oui, mais des fois, ils partent pas tout de suite. Voilà, ouais.
Donc il y avait une semaine où on discute un peu, des fois on va sur le bateau, on parle un petit peu des expériences de chacun, voir si le contact est bien. Et parce que eux n'ont pas non plus envie de partir avec le premier venu, donc ils veulent.
Tout ça, on s'en rend pas compte en fait en regardant la vidéo. Bah on a l'impression que tu arrives dans le port, tu trouves un bateau, tu pars quoi. C'est vrai que c'est bon à savoir. Ça prend. Il faut être patient. Quoi. C'est une séduction quoi.
Ouais, un petit peu. Il faut. Puis surtout qu'au bout de la. En général, il y a beaucoup de refus. Dans un port, il y a plein de bateaux, donc il y a plein de refus. Il faut garder la pêche quoi, parce que si au bout du 15e, il va où on va, mais on arrive avec le sourire. On en a marre, on est fatigué, donc il a pas trop envie de nous parler, puis il passe quoi. Donc il faut toujours avoir la pêche et puis,
ouais,
évidemment ça marche.
Donner la bonne humeur, exactement.
Comme d'aller chez les gens d'ailleurs.
Ouais. Moi on m'a dit que le bateau stop, donc c'était des bateaux qui doivent en fait faire des traversées pour un peu l'entretien du bateau et puis du coup tu peux essayer d'aller dessus pour un peu moins cher. Donc c'est bien ça le concept.
Le concept c'est pas tellement pour l'entretenir le bateau, c'est plus pour des gens qui veulent voyager, mm-hmm. qui ont un bateau. Et qui cherchent des équipiers. C'est vraiment un peu comme le stop ou BlaBlaCar en fait.
D'accord.
Les gens vont d'un point A à un point B, ils passent par tel port, et si quelqu'un veut faire telle portion, une autre portion, enfin voilà, il y a de la place. Il y a beaucoup de ports, il y a beaucoup de gens qui font du bateau stop. Donc dans les ports, les gros ports, il y a toujours une petite communauté de bateau stoppeurs qui attend, qui cherche, et donc on arrive, on se rend compte, ils nous disent tiens, si vous voulez aller là-bas, il y a tel bateau qui y va, nous on attend pour aller là. Et puis voilà, il y a tout un petit réseau qui se forme, c'est plutôt sympa.
Vous avez payé pour faire du bateau stop?
Ouais, on a payé à peu près 25€ par jour. Donc voilà, 25€ par jour, ce qui est rien quoi. Le prix d'un bateau c'est gigantesque.
Oui, c'est clair. Hein.
L'entretien à l'année, le budget est énorme aussi. Et donc c'est vraiment un bon parti de voyager comme ça. Et puis eux sont intéressés parce que bon voilà, ça leur fait quand même une petite compensation financière pour pouvoir entretenir le bateau.
Alors moi, en regardant le film, si j'ai bien compris, le passage le plus dur, c'est quand même la traversée de la cordillère des Andes. La montée. Enfin, alors, toutes les montées.
Et t'as dû voir du coup qu'on a triché.
Ouais, vous avez triché un petit peu, mais on sentait
on a beaucoup triché.
On sentait quand même qu'il y avait. C'est difficile, quoi. C'est que de la montée pendant des jours et des jours.
La cordillère des Andes, on est arrivé dessus, mais en 5 minutes, même pas. Enfin, tout était plat. Ça faisait des jours où c'était plutôt plat, un petit peu vallonné, mais tranquille. Et puis tout d'un coup, ça monte pendant 30 km, 40 km. Et là, c'était vraiment difficile. Et donc, c'est des montées qui peuvent. On peut rester deux jours quoi, dans une montée comme ça.
Oh, wow.
Donc, c'est vraiment difficile.
Et nous qui nous plaignons de
Lausanne.
Ouais. Oui, c'est vrai que Lausanne, c'est pas plat du tout. et donc, on s'est rendu compte à un moment que les camions qui nous doublaient n'allaient pas très vite. Et donc on s'est dit, tiens, ça pourrait peut-être se faire de s'accrocher derrière, ouais, d'accélérer. Donc on a commencé à développer tout un système pour attraper les camions. Parce que, donc,
c'est pas un peu dangereux, ça?
C'est un petit peu dangereux.
C'est très dangereux.
On ne recommande pas.
On ne peut pas cautionner ce genre de pratique.
On ne peut pas faire ça. Mais c'est super. Et donc on écoutait les camions arriver, et souvent au bruit, on savait s'ils allaient déjà vite ou pas vite. Et après, c'était toute une stratégie, chacun la sienne.
Ce sont des vieux camions, mais dans les montées, ça roule pas vite, quoi.
Ils volaient pas vite.
Beaucoup moins vite. Quoi.
Et donc, et puis s'il y avait un dodan, on savait qu'ils allaient ralentir, donc on attendait au dodan qu'un camion arrive. Une fois.
Vous pouviez vous accrocher les deux sur le même camion.
Alors voilà, donc on avait chacun notre côté préféré.
Okay.
Donc on disait, celui-là, moi je vais à gauche, celui-là tu vas à droite, et donc chacun tentait. Mm-hmm. Donc, en fait, on était tous les deux à courser le camion pour essayer de l'attraper. Parce qu'au moment où il nous double, lui accélère un peu, donc c'est assez compliqué. C'est technique. Hein.
Oui, effectivement, ça a l'air.
Et donc, pour pas se gêner, donc on avait chacun notre côté attribué, et le but c'était de le choper, quoi. Donc des fois, on était tous les deux à le frôler. Il y en a qu'un seul qui s'accrochait. Et du coup, tu voyais ton copain partir plein de balles dans la montée. Toi qui étais épuisé parce que tu venais d'accélérer.
Comme un guépard qui chasse une antilope.
C'était pas loin. Et donc voilà. Donc il fallait. C'était hyper technique, mais très marrant. Et puis ça nous a sauvé la mise, parce qu'au final, on a gagné des journées entières de montée.
Ouais. Par contre, après, les descentes, c'est du plaisir.
Ouais,
parce qu'une fois que tu montes, tu redescends après.
Et il faut pas deux jours pour descendre, par contre. Souvent, voilà, deux jours pour monter, une demi-journée pour descendre, et puis
deux jeux de plaquettes de frein.
Ouais, c'est ça.
Et après, à la fin, donc, vous avez fait quoi, 9000 km?
On a fait 9200. Ouais,
9200 km en combien
vélo.
De jours? Ouais, à vélo. Ouais. Oui,
coup,
c'est
un camion. Hein.
Non, on compte pas le bateau. On compte.
Avec le bateau, ça fait 17000.
17000 en combien de jours?
En 9 mois et demi.
En 9 mois et demi. Et après, vous êtes rentré comment?
Après, on est rentré en avion.
D'accord. Bon, c'est toujours la question.
On aurait pu rentrer en bateau. Mais... Ouais, on aurait pu rentrer en bateau.
En
mais...
fait, tu peux toujours rentrer à vélo.
Mais bon, on avait chacun des impératifs en rentrant. Donc, il fallait rentrer.
Ouais. C'était très bien. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous.
Bah, merci
est-ce
à vous.
Que la vidéo est disponible sur YouTube par
Elle
hasard?
Elle n'est pas encore disponible. Parce qu'il y a encore pas mal de festivals pour lesquels je vais le présenter.
Comment on peut te retrouver?
Alors, on peut me retrouver sur le blog ou la page Facebook Ça tourne en route.
D'accord.
Du nom du film et du nom du blog.
Et si vous voyez un festival près de chez vous qui diffuse Ça tourne en route, allez le voir. C'est une heure, c'est 50 minutes. C'est 50 minutes de plaisir.
Merci.
C'est vraiment génial.
Tu as des dates à annoncer?
Alors, je vais au festival de Bruxelles en roue libre qui est en mars. Ah. Et je me souviens plus des dates exactes.
C'est pas grave, on retrouvera.
Ouais. Mm-hmm. Mais après, il faut aller voir sur le blog.
D'accord.
Je l'écris.
Merci beaucoup.
Bah, merci à vous.
Alors, je vous propose qu'on passe à l'agenda de Gwendal.
Bonjour à tous, c'est Gwendal pour l'agenda des événements cyclistes près de chez vous. On va discuter aujourd'hui des balades à vélo collectif qui reprennent de plus belle à travers la France. À commencer par celle de Sète à côté de Montpellier, c'est organisé par la Roue Libre de Thau. Donc rendez-vous à 10h sur la place de la mairie et un peu plus au nord à Coquel à côté de Calais, organisé par l'association cycliste de Coquel. Pour les unifiés, il y a même possibilité de louer des vélos. Donc là, c'est rendez-vous 9h, avenue Charles de Gaulle. Ces balades, c'est l'occasion de participer à des sorties collectives en toute sécurité, car encadrées par des bénévoles. Donc rien de mieux pour se balader en famille et faire des rencontres. Pour ces deux associations, ces balades sont organisées tous les premiers dimanches de chaque mois. Donc si vous habitez pas loin, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur page web qui seront affichées dans la description. Ce début de mois de février marque aussi la reprise des ateliers Bricovélo, donc rien de tel pour remettre en forme sa bécane sous l'œil avisé de bénévoles expérimentés. On vous en a décoté quelques-uns. Le premier est organisé par Centre Vélo à La Roche-sur-Yon, rendez-vous de 14h à 19h place Napoléon. Pour les Parisiens, dans le 91 à Bure, à la Maison de l'écologie et de la transition à 15h, ainsi qu'un autre à Maubeuge dans le Nord, organisé par l'ADAV de 10h à 11h30. A noter que ces événements reviennent tous les premiers samedis du mois. Ce début de mois de février marque aussi la rentrée pour l'association Alvéole dans le 95, à Vauréal, qui déploie son programme Savoir rouler à vélo. Donc en gros, ce programme est destiné aux enfants et permet de les sensibiliser à l'utilisation du vélo et au partage de la voirie au sein de lieux sécurisés. Donc le 30 janvier, l'association organise une réunion pour présenter ses actions et enregistrer les inscriptions des nouveaux adhérents à leurs ateliers. Donc faites-le pour vos enfants, c'est eux qui nous représenteront sur la route demain. C'est très important. Voilà, c'est tout pour l'agenda. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine cycliste.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Charlie d'être venu.
Merci à vous.
Merci Florian et Lilou.
Merci à toi.
Et n'oubliez pas les amis, pour sauver l'humanité...
Faites du vélo !